bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une situation préoccupante. Le directeur général de la Santé a donné les derniers chiffres de contamination au Covid-19 en France hier soir. Et ces chiffres sont en hausse. Le virus n'est pas une méchante grippe. On apprend d'ailleurs ce matin qu'il fait 3 fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique. Nous y revenons dans un instant. Zoom ensuite sur la mise en concurrence de certaines lignes intercités dans le pays. Excepté la SNCF, aucune entreprise n'est intéressée. L'État suspend donc l'appel d'offres. Dans ce journal encore, la Nouvelle-Calédonie et les tensions toujours autour d'une usine de nickel. Et puis le lancement de la vaccination contre le coronavirus en Arabie Saoudite. Aération des pièces, port du masque en intérieur, même avec ses proches, pas plus de 6 adultes à table. À une semaine du réveillon de Noël, Jérôme Salomon a particulièrement insisté hier soir sur le respect des mesures de prévention. Le directeur général de la Santé tenait son point presse hebdomadaire. Inquiet, a-t-il dit.
L'évolution de l'épidémie est préoccupante, avec une tendance à l'augmentation de la circulation du virus à partir d'un plateau haut. Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés. 18 254 nouveaux cas ce jour. Une augmentation de l'activité de dépistage, avec une progression importante des tests antigéniques. Plus d'1 430 000 tests ont été pratiqués en une semaine, soit un taux d'autodépistage de plus de 2 000 tests pour 100 000 habitants. Le maintien à un niveau élevé du nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Nous avons encore 25 182 malades hospitalisés, dont 2808 en réanimation et 1362 personnes atteintes du Covid ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Enfin, le nombre total de décès est désormais en France de 59 619.
Voilà la préoccupation de Jérôme Salomon et son explication chiffrée hier soir. Autre étude maintenant qui met en perspective les données Covid et celles de la grippe. Des chercheurs de l'INSERM et du CHU de Dijon affirment que le Covid-19 est responsable de 3 fois plus de décès à l'hôpital que la grippe saisonnière, Philippe Bourry.
L'étude compare les périodes les plus aiguës des deux épidémies, l'hiver 2018-2019 pour la grippe et le printemps dernier pour le Covid-19. Et le constat est clair, le taux de mortalité est 3 fois plus élevé pour les patients touchés par le coronavirus, près de 17%, quand la grippe saisonnière a été fatale à moins de 6% des malades. Autre constat, 2 fois plus de personnes ont été hospitalisées pour Covid-19. On note également plus d'admissions en soins intensifs avec un séjour presque 2 fois plus long. Pour les chercheurs, la comparaison entre les deux épidémies est d'autant plus frappante que cette saison grippale avait été la pire des 5 dernières années en nombre de décès. Alors cette étude a ses limites, notamment parce que le dépistage grippal varie d'un hôpital à l'autre et qu'il existe une immunité contre la grippe dans la population. Ce qui fait dire à l'INSERM qu'en l'absence de traitement contre le Covid-19, les mesures barrières restent essentielles et que l'accès à des vaccins efficaces est une nécessité.
Vaccins qui n'arriveront en France que pour les derniers jours de l'année, au plus tôt pour les personnes âgées. Emmanuel Macron est isolé dans une résidence d'État à Versailles pour se soigner du Covid-19. Le président a été testé positif hier matin. Il travaillera donc à distance pendant une semaine depuis la lanterne, un pavillon de chasse, entouré d'une équipe réduite à son maximum. Brigitte Macron, son épouse, cas contact, reste confinée au palais de l'Élysée. Elle a été testée négative, tout comme Jean Castex, contraint lui aussi à l'isolement à Matignon. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, évoquait une possible contamination d'Emmanuel Macron en fin de semaine dernière lors d'un sommet européen organisé à Bruxelles. C'est un échec. Échec dans l'appel d'offres lancé par l'État français pour s'occuper des trains intercités Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux. Après 2 ans d'attente pour trouver un nouvel opérateur à partir de 2022, un seul candidat s'est proposé et il s'agit de la SNCF elle-même. L'État a donc préféré décaler la procédure jusqu'à avoir une visibilité claire sur l'issue de la crise sanitaire, dit l'exécutif. À l'heure actuelle, en effet, cette reprise des intercités ne convainc aucune autre entreprise, Thomas Larabi.
Les principaux opérateurs privés intéressés, et notamment l'allemand Transdev, n'ont pas souhaité donner suite. Ils évoquent des garanties insuffisantes de l'État ou encore de trop nombreux travaux à venir sur les voies. De son côté, l'exécutif agite l'excuse du Covid, mais pour le délégué Sudrail Fabien Villedieu, cet échec est avant tout une preuve que la privatisation du secteur ferroviaire est une mauvaise idée.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès qu'une entreprise privée serait confrontée à une difficulté, ben, il n'y a plus personne. Alors même que justement, on nous avait vendu l'inverse. Le privé, c'était génial, c'était vachement plus efficace que ce qu'on était capable de faire, et on se rend compte que pas du tout. Heureusement qu'on a une entreprise publique comme la SNCF qui ne plie pas les Gaules aux premières difficultés.
La SNCF regrette que son projet n'ait pas été étudié. Elle garde pour le moment l'exploitation des deux lignes, une situation qui pourrait durer selon l'économiste Marc Ivaldi.
Dans la situation actuelle, il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui rentrent sur le marché en France. Même si ce sont des entreprises efficaces dans le sens où elles auraient des coûts moins élevés que la SNCF, pour des trains comme ça, compte tenu des prix des billets, et compte tenu des subventions, eh bien, c'est pas rentable de rentrer.
L'échec est, quoi qu'il en soit, très symbolique pour le gouvernement qui voulait faire de ces deux lignes un exemple, car avant 2023, toutes les régions doivent formuler des appels d'offres pour ouvrir cette fois les TER à la concurrence.
Qui achètera en Nouvelle-Calédonie l'usine de nickel du sud de l'archipel? L'actuel propriétaire, le groupe brésilien Vale, souhaite vendre cette usine à un consortium international, ce que refusent catégoriquement les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Depuis des semaines, des tensions sont grandissantes sur place. Deux députés et un sénateur calédonien demandent à l'État français de nationaliser temporairement cette usine pour apaiser la situation. Explication ce matin pour France Culture de Stéphane Robert.
Les indépendantistes kanak ont décrété une trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais ils sont toujours bien décidés à empêcher la vente de l'usine de nickel du Sud au consortium international piloté par le groupe suisse Trafigura. Et donc, si rien n'a bougé d'ici début janvier, les barrages resurgiront sur les routes. Et sur les barrages, des hommes en armes, comme la semaine dernière. Les kanaks ne veulent pas de cette vente, car ils estiment que ce serait abandonner l'usine et son gisement aux appétits financiers de groupes internationaux, alors qu'ils considèrent le nickel comme une ressource stratégique dans la perspective d'une accession à l'indépendance. Le gouvernement français a beau faire valoir qu'il n'y a plus qu'un seul repreneur, il n'en démorde pas, raison pour laquelle les parlementaires calédoniens demandent à la France de nationaliser l'usine de façon temporaire afin d'apaiser les tensions. Car le conflit s'est envenimé politiquement, les loyalistes soutenant la vente au consortium international. Et ce qui alimente les tensions, c'est bien sûr la perspective d'un troisième référendum sur l'indépendance qui doit se tenir d'ici octobre 2022. Les indépendantistes font du déblocage de la situation autour de l'usine de nickel un préalable à une reprise des discussions politiques. La situation ressemble beaucoup à ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans, en 97 et 98. Les Kanaks avaient alors fait de la cession du gisement de nickel du Koyanbo, situé au nord, un préalable à la reprise des discussions politiques et à la signature de l'accord de Nouméa qui prolongeait les accords de Matignon.
Stéphane Robert pour France Culture. Au lendemain du verdict dans le procès des attentats de janvier 2015, c'est un autre procès terroriste qui s'est achevé hier, celui de l'attentat du Thalys en août 2015 qui avait fait deux blessés. L'auteur des tirs, Ayoub El-Kazani, a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité. Nous évoquions il y a quelques minutes le début des vaccinations en France. Eh bien, cette nuit, la FDA américaine, l'agence du médicament aux États-Unis, a approuvé l'utilisation en urgence du vaccin anti-Covid développé par le laboratoire Moderna. C'est la deuxième autorisation aux États-Unis après celle pour Pfizer. Vaccination qui a par ailleurs débuté en Arabie Saoudite cette semaine. L'Arabie Saoudite devient le premier pays arabe à déployer le vaccin Pfizer-BioNTech. Deux cargaisons ont été reçues dans le pays avant-hier, Aurélien Colli.
Les images ont fait la une des journaux, des télés et des réseaux sociaux saoudiens. Les premières vaccinations dans le royaume, 150 000 doses du vaccin Pfizer arrivées mercredi et déjà administrées gratuitement aux volontaires, en priorité les personnes les plus vulnérables et le personnel médical exposé. Avec cette campagne, l'Arabie Saoudite se place en tête des pays qui ont commencé à vacciner dans la région. Et pourtant, Riyad n'est pas confronté à l'urgence de l'Europe ou des États-Unis. 6 000 morts pour 35 millions d'habitants, avec moins de 150 nouveaux cas par jour désormais. L'épidémie est largement sous contrôle. Dans un dossier spécial consacré, je cite, à la dure bataille gagnée contre le Covid, un journal saoudien explique ce succès par l'expérience du virus MERS il y a quelques années. Même famille que le Covid, mais 35% de mortalité et 90% des cas en Arabie Saoudite, qui s'est depuis préparé aux épidémies en équipant notamment ses hôpitaux. Entre les lignes de ce dossier, on devine aussi les raisons beaucoup plus politiques qui motivent cette course à la vaccination de l'Arabie, sa place revendiquée de puissance régionale et surtout sa rivalité avec son grand voisin, l'Iran, où l'épidémie est hors de contrôle depuis l'année dernière, avec des milliers de morts et des perspectives de vaccins beaucoup plus lointaines.
Et notez que d'autres pays du Golfe, comme le Qatar, Oman ou le Koweït, n'attendent pas leur premier vaccin anti-Covid-19 avant le début de l'année prochaine. Après quelques pluies matinales sur la Bretagne et sur les Cévennes, les éclaircies auront gagné tout le pays à la mi-journée ce vendredi. Comptez entre 4 et 13 degrés du nord au sud aujourd'hui. Il est 6